continent tout entier comme le continent Afrique est aujourd'hui l'objet permanent de rivalités impériales absolument féroces qui opposent pour la conquête classique des minerais, des marchés, des ressources agricoles, etc., toutes les grandes puissances du moment, et en particulier, les rivalités entre États-Unis, France et Chine dominent largement le système des événements politiques en Afrique. De même, la dispute pour les ressources pétrolières du Moyen-Orient est un facteur décisif de l'histoire mondiale, où l'on voit bien que les grandes puissances n'hésitent pas à intervenir avec tout leur poids, tout leur matériel, toute leur armée, à occuper de façon durable des États et à détruire des États entiers avec quelques mois d'intervention. Si ce ne sont pas des activités impériales, vous devez savoir qu'est-ce que c'est tout de même. Donc, c'est une image absolument bucolique que vous nous donnez à tout le monde contemporain. Une image bucolique. La démocratie est ascendante partout, l'impérialisme est en décomposition et nous avons tous les moyens de transformer ça, alors que de toute évidence, le pouvoir est de plus en plus dans les mains d'une oligarchie étroite, selon une loi marxienne absolument vérifiée, qui est la loi de la représentation du capital. Parce que c'est ça le véritable phénomène, c'est que le capital est de plus en plus concentré et qu'il est protégé par des appareils militaires étatiques qui sont au service de cette concentration, beaucoup plus qu'au service de quoi que ce soit d'autre. Donc ça, c'était les deux premières remarques. La troisième, bien, l'affaire. Au fond, peut-on parler réellement de démocratie politique quand règne de façon essentielle un consensus sur un point fondamental? Au XIXe et au début du XXe siècle, et quoi qu'on pense en effet des expériences qui se sont intitulées communistes et qui ont échoué misérablement, je vous l'accorde absolument, le XIXe et le XXe siècle ont été habités par l'hypothèse qu'il existait une autre façon d'organiser les sociétés. Cette hypothèse était formulée, discutée, ramifiée, organisée en tendances philosophiques, économiques, politiques, et finalement elle donnait lieu à des grands partis populaires, à des syndicats nouveaux, et toute la subjectivité, y compris la subjectivité intellectuelle, était bâtie autour de l'existence de deux orientations principales qui étaient confrontées dans l'arène démocratique par tous les moyens disponibles. Le point fondamental que vous semblez considérer comme négligeable, c'est que cette situation s'est effondrée à partir des années 80, précisément. Pas seulement, ni même principalement, parce que les États socialistes ont jeté l'éponge, ils étaient au bout du rouleau, mais parce que l'idée même d'une alternative a disparu. Et vous-même, vous ne l'introduisez pas. Vous proposez simplement une rectification des dimensions pathologiques du capitalisme par une mobilisation démocratique dont je ne vois pas pour l'instant l'ombre de la possibilité dans le cadre existant. Et c'est bien normal, comment voulez-vous mobiliser les énergies des gens alors qu'ils ne disposent même pas d'une hypothèse alternative au système dont je viens de récapituler le caractère totalement oligarchique et l'extraordinaire puissance. Parce que la mondialisation du capitalisme, c'est à la fois la croissance de nouveau des rivalités entre grandes puissances, mais c'est aussi évidemment une démonstration de force, de puissance et de victoire. En réalité, le grand événement du XXe siècle, c'est que la lutte entre les deux hypothèses s'est terminée pour l'instant par la victoire d'une seule d'entre elles. Et vous vous situez à l'intérieur de cette victoire. C'est ça le bon problème. Et je pense qu'il est grand temps de procéder autrement. En plus, autrement, ce n'est pas très facile, ça nous ramène presque aux années 1840 du XIXe siècle, quand Marx, les révolutionnaires ouvriers parisiens, les insurgés de 48 dans les pays d'Europe, tentent de formuler quelque chose qui serait une alternative au capitalisme naissant. Cela a donné, en fin de compte, le trajet que nous connaissons et son échec. Et nous sommes dans la situation comparable, à mon avis, nous devons ressusciter véritablement, une hypothèse alternative, nous devons lui donner corps, nous devons le faire par les moyens intellectuels, par les moyens du rassemblement, de la convergence et de l'organisation des luttes effectives qui ont quand même lieu partout. Hein. Les gens ne sont pas non plus inertes ou entièrement hébétés, il se passe des choses, il se passe des mouvements. Et puis, suivre le chemin aride et difficile de la jonction entre l'hypothèse alternative que j'ai appelée communiste parce qu'elle s'est toujours appelée comme ça, finalement. Je suis conservateur sur ce point. Mais sans laquelle je ne vois pas ce que signifie même politique démocratique, puisque l'action principale est l'acceptation, en réalité, de l'ordre existant Afghanistan nous donne les moyens de transformer de l'intérieur cet ordre massif de l'oligarchie dominante qui me semble cependant lié à ce que peut appeler la démocratie de la façon la plus étroite, comme tout de même, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Alors je termine en disant, vous avez demandé ce que c'est que cette peut-être alternative. On est évidemment au niveau de sa formulation, au niveau des grands principes. Moi, je dirais, ça signifie un certain nombre de points que je résume à toute vitesse. Premier point, ce sont des possibilités, l'affirmation de possibilités. Une hypothèse, c'est ça, l'affirmation de possibilités. Le premier point, ce serait l'affirmation qu'une autre organisation de l'économie productive et par voie de conséquence de la société est possible que celle qui repose sur l'oligarchie de la propriété privée. Qu'une autre modalité est possible. Peut-être l'intervention de l'État joue-t-elle un rôle, sans doute n'est-elle pas exclusive ou monopoliste, hein. C'est une première assertion. Nous n'avons pas à nous résigner à la distribution oligarchique et transmise par l'héritage des richesses telle qu'elle s'est reconstituée, pour toutes les enquêtes le montrent, exactement comme elle était avant la guerre de 14. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous n'avons pas non plus à accepter comme éternelle l'organisation productive sous la forme de la division du travail, avec différences importantes et hiérarchiques entre les tâches intellectuelles et les tâches manuelles, et différences aussi très importantes et hiérarchiques entre les tâches de direction et les tâches d'exécution. Troisièmement, que nous n'avons pas non plus à enfermer définitivement l'espace de la décision politique dans des configurations identitaires restreintes de type national, que, en définitive, aujourd'hui, pour être à hauteur de la lutte contre une oligarchie mondialisée, il faut aussi avoir des perspectives politiques de caractère mondial. Ces trois choses qui se sont appelées, évidemment, la lutte contre l'hégémonie de la propriété privée, évidemment, la lutte contre les figures figées de la division du travail, et troisièmement, la lutte pour la bête internationaliste authentique, je ne vois pas du tout qu'elles soient périmées, telles qu'elles étaient dans Savannah, en effet, dans le 20e siècle. Et je suis absolument convaincu que sans leur résurrection, leur animation, le nom qu'on leur donne et le partage de ce type d'idées, eh bien, nous continuerons à vouloir, comme Marcel Gauchet, des réformes démocratiques sympathiques du capitalisme dominant, nous continuerons à ne pas les avoir, et nous irons lentement, mais sûrement, à la guerre, car l'impérialisme